chers amis, puisque vous êtes pratiquement tous mes amis, sauf j'inclus ceux que je ne connais pas. Donc j'ai le plaisir de vous amener ce soir Jacob Rogozinski, sachant qu'il a eu une rude journée puisqu'il a fait une conférence à la fac de 2 à 4, puis une séance en librairie de 6 à 7 heures et quart. Et je promets que je n'ai pas dépassé la limitation de vitesse pour arriver quand même à temps ici. Ça, c'est l'autoroute qui fait ça. Donc voilà, Jacob Rogozinski est professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg, au département de philosophie. Il a plusieurs sujets d'intérêt, en particulier des sujets très, très spécifiques à la philosophie, comme il s'est intéressé à la philosophie de Kant, il s'est intéressé au problème de la phénoménologie du corps, etc., mais aussi à différents sujets proches de l'actualité. Il a commencé, je pense que c'est très important, par un livre sur qui s'appelle « Ils m'ont haï sans raison », un livre sur la chasse aux sorcières dans l'histoire, et ce livre sur le djihadisme qui est paru en 2017, pour lequel il était, je l'avais tracté à Metz, et donc, mais aussi de plus en plus intéressé par des, en tant que philosophe, par des sujets d'actualité, comme l'actualité que nous avons vécue, et d'où le thème des Gilets jaunes, sur lequel il a publié des articles d'opinion, je dirais, dans Le Monde, puis des articles plus...
Un article plus
ample dans une revue qui s'appelle Ligne, qui est aussi un éditeur par ailleurs. Voilà. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée que peut-être ça pourrait nous intéresser aussi. Nous. Alors je précise bien que sur les Gilets jaunes, on pouvait inviter un politologue. On pouvait inviter un sociologue. Je suis un sociologue défroqué. Et on pouvait inviter plein de gens comme ça. On invite un philosophe. Je demande de ne pas oublier ça dans notre discussion. Nous avons invité un philosophe. Voilà. Maintenant, je laisse le philosophe parler.
Bon, écoutez, je vous remercie de votre invitation. C'est un plaisir d'être là. Enfin, j'aime bien présenter des idées, j'aime bien discuter dans des auditoires très variés. Là, effectivement, à l'université, c'était un auditoire différent. Composé d'imams, c'était plutôt des musulmans qui sont là pour s'intégrer, réfléchir sur la question de la laïcité, de la radicalisation, donc c'était une autre optique. Mais là, je parlerai d'autre chose, je parlerai pas du djihadisme, je parlerai des gilets jaunes, ce qui peut sembler un peu incongru pour un philosophe. Effectivement, c'est plutôt un sujet pour les journalistes, et oui, à un niveau un petit peu au-dessus, les sociologues, les politologues, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'interviens sur cette question des gilets jaunes? Oui, je me le demande moi-même parfois, et plusieurs de mes amis, d'ailleurs, m'ont demandé parfois assez durement. Bon, je pense qu'un philosophe, profondément, réfléchit sur des concepts. C'est quelqu'un qui travaille avec des concepts, qui commente aussi des textes, parce que les concepts, on les trouve en partie dans des textes classiques que certains d'entre vous connaissent ou vous ne connaissent pas, mais bon... Jean-Yves Trépos me dit que souvent il termine le café philo en lisant racontant des mythes de Platon. Voilà. Alors ça, c'est le travail du philosophe, relire des textes de la tradition pour essayer de repérer des questions et des concepts et essayer de les faire travailler. Alors la dérive un petit peu, c'est de ne pas se faire du commentaire, de commentaire, de commentaire et s'enfoncer dans la lecture des textes et oublier l'actualité. Parce qu'au fond, Platon, lorsqu'il écrivait ses dialogues, il était en prise directe avec ce qui se passait à Athènes à l'époque. Et Spinoza, ses amis l'empêchent d'afficher un manifeste où il attaquait très durement les gens qui venaient de lyncher certains de ses amis en pleine rue pour des raisons politiques. Il était dans l'actualité et Hegel aussi. C'est une manière aussi pour moi de réagir à une déviation un petit peu historique, historienne de la philosophie où on se contenterait de ruminer des textes de la tradition. Je pense que la tâche du philosophe, c'est aussi, entre autres, d'établir un diagnostic sur l'actualité, sur ce qui se passe. C'est-à-dire d'essayer, sans céder sur la rigueur des concepts, de les impliquer dans ce qui se passe, pour mieux comprendre ce qui se passe. Je dis impliquer, pas appliquer, parce qu'appliquer, ça donne l'impression qu'on aurait déjà des idées toutes faites, comme des moules, qu'on tenterait de les plaquer sur une matière. Non, plutôt les impliquer, voilà. Bon, alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur le djihadisme, que Jean-Yves Trépos a évoqué, qui est un petit livre grand public que j'ai fait en 2015-2016, parce que j'étais interpellé, comme nous tous, par ce qui s'était passé, par ces massacres abominables, ces attentats. Et je me disais, bon, en tant que philosophe, il faut aussi, de temps en temps, que je sorte de mes vieux auteurs, enfin, de mes auteurs anciens, et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Alors, je n'étais pas du tout spécialiste de l'islam, mais voilà, je pensais que j'avais peut-être des choses à dire et à comprendre, et à partager sur ces questions. Ah, voilà, oui. Merci. Bon, alors, les Gilets jaunes, c'est encore plus récent et encore plus incongru par cinq côtés, parce que, voilà, c'est un mouvement totalement inclassable qui pose question, qui pose problème. Et j'ajouterais que c'est aussi un mouvement extrêmement clivant. Je me suis déjà fâché avec plusieurs de mes amis lorsqu'ils sont aperçus philosophes, lorsqu'ils sont aperçus que je soutenais ce mouvement, que je sympathisais avec ce mouvement sans approuver tous ses aspects. J'approuve pas à 100%, mais j'avais une certaine. Après enquête, après avoir été voir, parce que je ne voulais pas me contenter de la connaissance par oui-dire, qui est toujours insuffisante, j'ai été voir, j'ai été discuter, j'ai été voir ce qui se passait. Je me suis dit, bon, il se passe quelque chose d'intéressant, quelque chose qui m'interpelle, quelque chose qui pose problème et que je cherche à comprendre. Et ce mouvement n'est pas terminé. Bon, il est toujours en cours, même si c'est un peu la queue de comète, hein, c'est vraiment les tout derniers soubresauts. Il aura quand même duré 3 ou 4 mois, ce qui est très, très, très long pour un mouvement social d'ampleur. C'est très long. Très long, très intense. Il aura mobilisé des centaines de milliers de Français dans des endroits très, très improbables, très reculés. J'ai vu arriver au quartier général des Gilets jaunes de Strasbourg des gens qui venaient d'endroits vraiment mais minuscules, enfin, des endroits que je ne connaissais même pas le nom, de Roppenheim, La Poutroie, des tout petits villages perdus au fin fond des vallées des Vosges. Donc je me suis dit, vraiment, c'est la France très, très profonde qui a été touchée et qui s'est mobilisée. Ça a du sens, certainement. Alors là, en tant que philosophe, je me suis posé la question, quel est le sens? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? J'avoue que c'est un chantier, parce que le mouvement est en cours, parce qu'il est tout à fait nouveau, inédit, inclassable, étonnant. Donc j'ai vraiment des hypothèses, des questions et des hypothèses. J'ai essayé de mobiliser ce que j'avais comme concept pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer d'y voir plus clair. Je me trompe peut-être totalement. On ne sait pas encore ce que deviendra ce mouvement, ou s'il deviendrait quelque chose. Bon, il y a des gens au début qui m'ont dit, des amis proches qui m'ont dit, ça va tourner comme en Italie, ils vont créer un parti, ils vont s'allier avec l'extrême droite, ça va être comme Salvini en Italie. Il y a d'autres qui m'ont dit, ça va être comme au Brésil, où il y a eu effectivement, en 2013-2014, un mouvement spontané contre la corruption, la hausse des tarifs, etc., qui, de fil en aiguille, a conduit à l'élection d'un président d'extrême droite particulièrement détestable et problématique. Bon, peut-être, ou peut-être pas. On ne sait pas. C'est ouvert. Donc là, je prends un petit risque quand même, un risque léger, mais je prends un risque, c'est de me confronter non plus à des auteurs morts il y a quelques siècles ou même quelques milliers d'années dans le cas de Platon. Je me prends le risque, comme je l'ai fait pour le livre sur le djihadisme, de me confronter à l'actualité la plus brûlante et en plus une actualité étonnante. Le djihadisme, en gros, on arrive assez vite à cadrer de quoi il s'agit. C'est pas simple. C'est pas une chose simple. Mais ça a certainement tout à voir avec l'islam, avec les contradictions internes de l'islam, donc on peut cibler. Mais les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est que ça? Très étrange, très, très problématique, très curieux. Bon. Donc je me suis risqué, ça a donné un petit travail que j'ai publié dans la revue Ligne, j'ai coordonné le numéro de cette revue. On l'a intitulé ce numéro de la revue Ligne, « Les Gilets jaunes, une querelle des interprétations ». Parce que le numéro lui-même était totalement clivé. Il y avait des gens qui étaient pour, moi-même et quelques-uns de mes amis et d'autres que je ne connaissais pas, et des gens qui étaient totalement hostiles, notamment un philosophe assez connu, qui est Alain Badiou, philosophe d'extrême-gauche, maoïste, même d'ultra-gauche par cinq côtés, était totalement hostile aux Gilets jaunes. Pour des raisons qu'on pourrait creuser, je trouvais que ça manquait de discipline, notamment que c'était pas assez. Il leur faudrait un parti bien organisé. Enfin bref, il était contre. Donc le numéro était totalement clivé, divisé. Donc c'est une question qui divise, c'est une question qui n'est pas réglée. Donc voilà, je voudrais partager avec vous mes interrogations. Alors, que peut-on dire? Un rond-point. Le mouvement des Gilets jaunes est né sur un rond-point, sur les ronds-points. Alors, si. Bon, il y a eu des mouvements d'occupation des places qui ont eu lieu dans différents pays. Il y a eu le mouvement Occupy aux États-Unis, les indignés, les indignados espagnols qui avaient occupé la Puerta del Sol, un petit soubresaut à Paris qu'on appelait Nuit debout, qui a existé pendant quelques semaines, qui a stationné Place de la République. Mais à chaque fois, bon, Place de la République à Paris, Puerta del Sol à Madrid, la place près de Wall Street à New York, on a affaire à des lieux centraux, des lieux symboliques, des lieux de pouvoir. Bon, bon, donc ça a un sens particulier, précis. On s'en prend au centre. Alors que les ronds-points du tréfonds, même pas des banlieues, c'est l'au-delà des banlieues. Voilà. Les Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement de banlieue. Il y avait très très peu de jeunes de banlieue et d'immigrés dans les Gilets jaunes. C'est des gens qui sont au-delà, dans ce qu'on appelle les zones périurbaines, suburbaines, bon, ou des bourgs, des petits bourgs, comme ceux que j'évoquais et que je connais un peu en Alsace, Fissembourg, La Poutroie, des choses comme ça. Quoi. Bon, des endroits reculés, au-delà des banlieues. Et ce qui est le plus perdu dans ces endroits perdus, les ronds-points. C'est-à-dire des lieux qui sont faits, comme leur nom l'indique, pour tourner autour, pour passer à côté sans les voir. On est vraiment l'antithèse absolue de ce que c'est qu'occuper la place de la République à Paris. En plus, un lieu très symbolique, la République, avec les grandes manifs qui vont toujours de la République à la Bastille ou de la République à la Nation, bon, etc., etc. Là, c'est des non-lieux. Un rond-point, c'est un non-lieu. Et c'était occupé par des gens qui avaient pris comme insigne, comme emblème, le gilet jaune, c'est-à-dire au fond on a quelque chose de très banal, on a tous des gilets jaunes dans nos voitures, d'abord c'est obligatoire sauf erreur, hein. Bon. Alors qu'est-ce qu'un gilet jaune? Peut-être c'est un signal d'alarme, ça veut dire ne m'écrasez pas, c'est aussi pour faire voir quelqu'un qui est invisible. On met un gilet jaune un petit peu phosphorescent, un peu réfléchissant, lorsqu'on est au bord de la route, qu'on a une crevaison, etc., pour ne pas être écrasé par un camion ou une voiture qui passerait. Donc on sent quelque part l'idée d'un invisible, de quelqu'un qui souffre d'être invisible et qui voudrait qu'on n'écrase pas trop, qui voudrait se faire voir un peu quand même, avant d'être totalement écrasé, anéanti. Moi j'entends ça dans l'emblème du gilet jaune qui a pris comme une sorte de déflagration. L'idée a été lancée, je crois, en début novembre sur des réseaux sociaux. Première manif le 17 novembre. En très, très peu de temps, des centaines de milliers de gens avaient mis le gilet jaune. J'ai demandé à Jean-Yves Trépos s'il y en avait ici. Il m'a dit non, pas ici, mais à côté, à Saint-Avold, à Kreuzwald, c'est ça. Bon, voilà, partout, partout. Dans les endroits les plus saugrenus, les plus étranges, les plus perdus, on a vu des choses très violentes, très impressionnantes. J'ai noté qu'au tout début, dans le bourg du Pouzin, en Ardèche, un endroit vraiment très, très reculé. Il y a eu des affrontements très violents entre des gilets jaunes ardéchois et des gendarmes qui ont laissé quand même une vingtaine de gendarmes sur le carreau. 20 gendarmes blessés dans un bourg perdu. Quelque chose d'inattendu, de très bizarre qu'on n'avait jamais vu. Alors au début, bon, j'ai eu un sentiment de méfiance profonde, ça je l'avoue. Ça me faisait penser au poujadisme. Au poujadisme des années 50... ou mouvement qu'il y a eu un petit peu après, enfin des mouvements donc d'artisans, de petits commerçants en colère contre les taxes, contre les impôts. Le point de départ des Gilets jaunes, le déclencheur, c'était la taxe sur le gazole et l'essence, augmentation des taxes sur le carburant au nom d'un impératif écologique franchement dévoyé pour le coup. Donc ça, je me suis dit, OK, un mouvement type poujadis contre des taxes, non, bon, c'est une petite bourgeoisie comme ça, de petite ville, on va voir un nouveau poujadis, on va voir surgir un nouveau poujade, c'est-à-dire un leader fort en gueule, macho, sans doute un peu raciste, qui va occuper les médias pendant quelques temps. Eh bien non, rien de tel, rien de tel. Donc surprise. Au fond, la philosophie commence avec l'étonnement. Hein. C'est la qualité du philosophe, c'est de s'étonner, disait déjà Platon et Aristote. Donc au début, ça me paraissait banal, au fond, un nouveau poujadisme. Puis, non, ça venait pas. Donc j'étais étonné. Et là, bon, ça réveillait en moi le besoin ou le désir de philosopher, puisque la philosophie commence avec l'étonnement. C'était pas banal, c'était pas prévu ce qui se passait. On attendait un chef, et puis aucun chef n'est venu. Il est même venu le contraire. C'est-à-dire, on a assisté à un mouvement, et ça c'est comme très impressionnant pour moi, un mouvement qui refusait par principe d'avoir un chef. Et chaque fois que quelqu'un tentait de sortir un peu du rang, notamment en se présentant beaucoup sur les plateaux télé, bon, presque aussitôt, le mouvement, les gens à la base réagissaient parfois de manière très violente. Il y a aussi une violence de ce mouvement qui a ses aspects problématiques. Je pense à cette brave dame appelée Ingrid Levavasseur, qui à un moment donné apparaissait beaucoup sur les plateaux télé. C'est une aide-soignante de Normandie, je pense. Elle avait en tête de faire une liste de gilets jaunes pour les élections européennes. Elle s'est faite insulter, menacer de manière très dure. Enfin, dès quelqu'un sortait un petit peu du lot, aussitôt il était insulté par la base, traité de traître, de vendu. Donc un mouvement qui refusait d'avoir un chef. Et ça, déjà, je dirais, politiquement, philosophiquement, c'est très étrange. Très étrange. Bon, il y a quelqu'un dont on parle beaucoup actuellement, quelqu'un que je connais un peu, Chantal Mouffe. Elle est une théoricienne de ce qu'on appelle le populisme de gauche. On en parle beaucoup parce que c'était une des inspiratrices, elle et son mari qui est décédé maintenant. Ils ont inspiré en partie le mouvement Podemos en Espagne. Et un peu la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Bon, on pourra en parler si vous voulez, mais il y a chez elle et chez Ernesto Laclos, son compagnon qui est décédé, cette idée que bon, ce qu'on appelle populisme, en fait, c'est la création d'un nouveau bloc historique qui permet de faire se rencontrer, se coaguler des demandes au départ hétérogènes, dispersées, autour d'un ce qu'on appelle un signifiant vide, un signifiant X. Par exemple, le gilet jaune, ou un nom. Alors, pour elle, ce genre de mouvement, inévitablement, doit se concentrer autour de la figure et du nom d'un chef. Bon, poujadisme, péronisme, moins agréable, stalinisme, hitlérisme, etc. C'est le nom du chef, au fond, qui sert d'élément coagulant, qui permet à des revendications ou des demandes de disperser, qui n'arrivent pas à se rassembler, à s'articuler, à faire bloc, et donc à peser dans le rapport des forces politiques. Bon, c'est sa théorie. Donc il faut un chef. Bon, et ben, les Gilets jaunes n'ont pas de chef. Et même, on peut aller plus loin que Chantal Mouffe. J'avais trouvé une thèse assez ancienne d'un grand théoricien, d'un grand philosophe du politique, un des plus grands, qui est Machiavel. Un Italien qui écrivait en Italie au début du XVIe siècle, Le Prince, très connu, livre assez impressionnant d'ailleurs. On ne sait pas très bien quelle est la position exacte de l'auteur quand il défend ça. Bon. Et là, il y a cet axiome de Machiavel où il dit qu'une multitude sans chef est impuissante. Une multitude sans chef est impuissante. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve chez beaucoup de théoriciens. Le chef est... Tout à l'heure, je dirais quelques mots de Freud... je peux en parler dès maintenant, d'ailleurs. Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, il a écrit un texte, un de ses plus grands textes, « Psychologie de masse et analyse du moi », qui a été publié en 1921. C'est un texte tout à fait passionnant, où Freud sort du champ un petit peu étroit de la psychanalyse individuelle et essaie d'aborder le collectif. C'est donc le texte de Freud sur la politique, en gros. Très intéressant. Où effectivement, bon, il se centre sur... Il y a plusieurs axiomes chez lui, notamment l'idée qu'une masse est toujours régressive par rapport aux individus qui la composent. Donc la masse est régressive. Elle ramène l'homme, l'être humain, à des stades antérieurs à son développement. Donc elle est plus primitive et plus infantile que le niveau atteint par les individus qui la composent. Et donc elle ramène à certaines formes très, très infantiles, très archaïques, préhistoriques quasiment... Elle ramène à ce que Freud appelle la horde primitive, parce qu'il y a toute une théorie de la horde primitive, c'est-à-dire de la naissance de la culture humaine, de la civilisation humaine, la naissance de la religion, mais aussi bien de l'art et de la politique, ça aurait été cette horde primitive des temps préhistoriques, dominée par un père, le père de la horde, qui tyrannisait ses enfants, gardait pour lui toutes les femmes, castrait ou tuait tous ses fils, ou les chassait de la horde, jusqu'au jour où les fils seraient rassemblés, auraient tué le père. C'est le fameux meurtre du père primitif, qui est une thèse très importante de Freud. Alors pour lui, bon, la foule, toute masse humaine, parce qu'elle est régressive, ramène à cet état hypothétique, hein, Freud gamberge un peu. Cette horde primitive n'a sûrement jamais existé, et le meurtre du père est très très contesté par les ethnologues. Hein. Bon. Mais voilà, c'est une théorie de Freud, qui développe dans Totem et Tabou, dans d'autres textes. Alors, toute foule humaine ramènerait au fond, par régression, à l'état primitif de la horde. L'homme est un animal de horde, écrit Freud dans ce texte. Et donc, elle nous ramènerait à la fascination pour le père, hein, pour un père à la fois tyrannique, effrayant, castrateur, et en même temps aimé. Passionnément aimé, comme le petit enfant peut aimer papa. Et ce père que recherche toute masse humaine, Freud le désigne du nom de meneur, de guide, en allemand Führer. Bon, c'est en 1921, Adolf Hitler n'est pas encore très connu, c'est un obscur agitateur de Bavière. Le terme Führer, il prend un sens que nous connaissons historiquement. Alors c'est le meneur, c'est le... voilà. Toute foule humaine veut un meneur, et toute foule humaine consiste, dit Freud, en s'identifiant au meneur, et elle communie dans son amour pour le chef, qui répète l'amour que tout enfant a éprouvé pour son père quand il était petit. Bon, un amour complexe, parce que c'est un amour mêlé de haine, comme toujours chez Freud, mais voilà, l'amour des membres de la masse les uns envers les autres, et leur amour commun envers le chef, c'est ce qui fait consister la masse humaine, toute masse humaine. Y compris de ce que Freud appelle des masses organisées, c'est pas uniquement la foule émeutière, la masse qui défile ou qui court dans les rues, etc. Ça peut être aussi ce qu'il appelle des masses organisées. Il donne deux exemples, l'armée et l'Église, qui sont soudées par leur amour et leur identification à la figure du chef, le général de l'armée, et le chef absent, invisible, qui est le Christ pour l'Église. Bon. Alors, dit-il, lorsque le chef disparaît, la masse se décompose parce qu'elle n'a plus ce point d'identification qui la fait consister. Bien. Et il dit, bon, il cite des cas de batailles célèbres dans l'Antiquité notamment, ou au Moyen-Âge, où lorsque le roi ou le chef est tué au cours de la bataille, l'armée se décompose et c'est la déroute. OK. Alors voilà des gilets jaunes, une foule nombreuse, une masse, un mouvement de masse, sans aucun doute, sans chef et qui refuse le chef. Donc un mouvement qui, par son fonctionnement même, semble réfuter, excusez du peu, à la fois Machiavel et Freud, et sans doute aussi d'autres théoriciens du politique, on pourrait citer Hobbes, et beaucoup d'autres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est qu'une masse, un mouvement de masse acéphale, c'est-à-dire sans tête, et qui refuse violemment la tête, et pourquoi ? Donc déjà, vous voyez, ce genre d'interrogation qui m'excitait en tant que philosophe, qui me poussait à chercher à comprendre cela. C'est-à-dire, pourquoi refusait-il de manière si forte ce nez le chef ? Bon, moi, je pense que ça met en jeu une certaine conception de la démocratie. J'annonce tout de suite la couleur. Je vais y revenir profondément parce que ça, c'est le sujet de l'exposé que je présente. Avant, je dirais quelques mots sur ce qui me semble être la source, l'origine de ce mouvement, me semble-t-il. Après, je reviendrai sur le fond, sur la démocratie et le concept de démocratie que ce mouvement met en jeu. En tout cas, c'est une démocratie qui refuse toute représentation et donc qui refuse d'être représentée par quiconque, y compris par des gens qui pourraient être leur chef. Ils poussent leur refus de la représentation, leur ultra-démocratisme, leur type de démocratie extrêmement radicale, à un tel point qu'ils en viennent à refuser toute représentation par un chef. Par un porte-parole, ce qui est quand même très rare. Bon, par parenthèse, ça suffirait d'ailleurs pour dire que ce n'est pas un mouvement populiste, ni un mouvement fasciste ou totalitaire. Parce que s'il y a bien une chose qui caractérise les mouvements de type fasciste ou totalitaire en général, et les mouvements de type populiste, j'évoquais le poujadisme, le péronisme argentin, il y en a quelques autres exemples aussi, c'est qu'ils ont tous un trait commun, c'est le culte du chef. Pas de fascisme sans Mussolini, pas de nazisme sans Hitler, pas de poujadisme sans Poujade, pas de péronisme sans Péron, etc., etc. Bon, ce qui caractérise vraiment ces mouvements, c'est là, l'analyse de Freud, elle fonctionne très bien, c'est que c'est des mouvements de masse unis par le culte et l'amour fasciné pour le chef. Fasciné, fascisme, c'est la même racine. Curieusement, le fascisme fonctionne à la fascination, et toute fascination a un côté un peu fasciste aussi. Mais bon, laissons ça de côté. Bon. Alors voilà, là, donc je pense, on a dit que c'était un mouvement fasciste, tes amis m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces racistes, fascistes ? Alors j'ai dit, désolé, un fascisme sans chef, pour moi, c'est pas un fascisme, c'est autre chose. Ce qui veut pas dire que tout est bon, que tout est juste, mais c'est étonnant, c'est énigmatique, et donc ça mérite d'être interrogé philosophiquement. Alors quelques mots maintenant, j'ai cherché à savoir d'où venait ce mouvement, enfin qu'est-ce qui faisait que ces gens, tout à coup, des gens qui n'avaient pas de culture politique, des gens qui n'étaient pas organisés dans des syndicats, dans des partis, dans des associations, des gens X, voilà, les citoyens lambda, des gens souvent très isolés, semble-t-il, hein, par leur profession, par leur habitation, hein, tout à coup éprouver le besoin de se regrouper, d'être ensemble, de vivre ensemble une expérience collective, qui mettait en jeu la question même de l'exercice du politique, l'exercice du pouvoir en démocratie. Alors, mon hypothèse, et je reviens à ce que c'est qu'un gilet jaune. Le gilet jaune, c'est ce qu'on met lorsqu'on veut, lorsqu'on a peur d'être invisible, lorsqu'on a peur d'être écrasé parce qu'on est invisible et qu'on veut se donner à voir. C'est donc un signal d'alarme, un signal d'alerte et un cri. Ne m'écrasez pas. Donc, rendre visibles les invisibles. Bon. Clairement, c'est des gens qui souffraient d'être invisibles et qui se sentaient écrasés par leur invisibilité. On ne les reconnaissait pas et donc ils voulaient absolument être reconnus. Et ils mettaient un signal d'alarme pour dire « Je suis là, ne m'oubliez pas, ne m'effacez pas, ne m'écrasez pas, reconnaissez-moi. » Donc ça mettait en jeu le désir d'être reconnu, me semble-t-il. Il y a un profond désir de reconnaissance et une profonde souffrance de ne pas être reconnu. Et là, bon, là, je suis déjà un peu plus en terrain de connaissance, si on peut dire, philosophiquement, parce que la question de la reconnaissance, c'est une question philosophique, une question forte, une question qui a été mise en avant par un très grand penseur, qui est Hegel, le philosophe allemand au début du 19e siècle. Pour lui, bon, ce qui caractérise l'existence humaine, c'est la lutte pour la reconnaissance. Chacun d'entre nous veut être reconnu pour ce qu'il est et reconnu par des gens que lui-même reconnaît. Donc c'est un double processus. Parce que on ne peut pas être reconnu par des gens qu'on ne reconnaît pas soi-même. Donc, je ne peux pas être reconnu par une chaise ou par un arbre ou par quelqu'un que je méprise totalement, que je considère comme, ou que je considère comme abject, ignoble, etc. Être reconnu par ce genre de personne ne m'apporte aucune reconnaissance. Bon. Donc il faut à la fois reconnaître l'autre et être reconnu par l'autre. Et cela, du Hegel, ça se fait à travers un combat, une lutte. Il parle même de lutte à mort dans certains textes, lutte à mort pour la reconnaissance. Alors pour lui, bon, dans d'autres textes, les textes plus classiques, enfin plus, comme sa philosophie du droit, il essaie de penser l'existence même de l'État comme je vais très vite là, parce que c'est comme un peu compliqué Hegel, mais pour lui, l'État moderne tel qu'il l'analyse, a pour fonction justement d'opérer la reconnaissance des citoyens. Le citoyen, c'est celui qui se sent reconnu par l'État. Et donc trouve sa place dans la société et dans l'État. Bon. Mais dit-il, dans le monde moderne, dans la société, ce qu'il appelle la société civile, la société bourgeoise moderne, il y a des gens qui ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont et qui donc se révoltent contre la société et le gouvernement. Et la société moderne crée sans cesse une nouvelle population, toujours plus nombreuse, de ces gens qui souffrent de non-reconnaissance. Il écrit ça en 1820. 1821 exactement. Enfin, il publie le livre en 1821. C'est assez impressionnant comme puissance anticipatrice là, dans l'Allemagne pas très industrialisée de l'époque. Il avait perçu bon, ce qui va être le grand problème des deux siècles suivants, enfin qui est encore le nôtre, l'apparition d'une masse importante de gens qui ne se sentent pas citoyens parce qu'ils ne se sentent pas reconnus par l'État et par les autres. Alors lui, il les désigne d'un nom très problématique, intéressant. Il les appelle en allemand « Pöbel ». Alors, comment traduire ça? Beaucoup de gens traduisent ça par populace. Alors ça, c'est très méprisant. Populace, c'est vraiment un terme totalement péjoratif. Peuple, moi, ça, bon, d'autres personnes traduisent par plèbe. Et je préfère ça parce que, en plus, le mot peuple est de la même racine que plèbe et peuple aussi. C'est la même racine latine. Alors vous me direz, bon, plèbe, c'est aussi méprisant. Oui et non, c'est pas certain. Ça l'a pas toujours été, en tout cas. Vous savez que la plèbe, au départ, c'était... Bon, une catégorie, la catégorie sociale inférieure dans la Rome antique. Les maîtres de la cité, c'était les riches, les patriciens, ceux qui bon, composaient le Sénat. Alors les plébéiens s'étaient révoltés. Ils avaient même fait sécession, ils s'étaient retirés sur une colline, sur l'Aventin. Plus tard, il y a eu des émeutes, etc. Ils avaient fini par reconnaître le droit d'avoir des tribuns de la plèbe qui pouvaient exprimer leurs revendications face aux patriciens. Donc les patriciens avaient accepté de partager le pouvoir. Ça a été ainsi qu'a fonctionné la République romaine pendant plusieurs siècles. Et voilà, donc ils avaient obtenu un certain type de reconnaissance de la part de leur État. Et pendant la Révolution française, il y a un personnage tout à fait remarquable qu'on connaît mal, enfin un certain Babeuf, qui avait pris un prénom romain, parce qu'ils aimaient beaucoup Rome. C'était un révolutionnaire très très radical, plus radical que les Jacobins, enfin c'était un sans-culotte très radical, et qui pourtant s'était opposé aux excès de la terreur. Donc c'est un personnage très intéressant, il avait créé un manifeste des plébéiens. Et donc il voulait bon, et défendre l'idée, bon, revaloriser ce vieux terme de plèbe. Il a fini sous la guillotine, parce qu'il voulait... Bon, établir l'égalité, et il s'est opposé. Bon, et voilà, il a été exécuté. Donc bon plèbe, oui, mais en essayant de retirer ce terme plèbe, tout aspect péjoratif. Donc une plèbe qui ne serait pas la populace, une plèbe qui serait l'ensemble des gens qui souffrent de ne pas être reconnus dans la société telle qu'elle existe. Alors cette question de reconnaissance, non-reconnaissance, c'était retravaillée tout récemment par des auteurs allemands intéressants, ce qu'on appelle la théorie critique. Enfin, c'est un auteur qui est encore vivant, qui écrit, il s'appelle Axel Honneth. Et son grand livre s'appelle justement « La lutte pour la reconnaissance ». Il date des années 80, je pense. Et il y a un petit recueil de textes intéressants que vous pouvez lire de lui, qui s'appelle « La société du mépris ». C'est aux éditions de La Découverte, c'était traduit récemment. Il a écrit beaucoup de textes. C'est un auteur intéressant qui se centre sur les différents modes de reconnaissance à travers le travail, à travers l'amour, à travers le droit, etc. Et sur la souffrance que provoque le fait de ne pas être reconnu. C'est ce qu'il appelle les dénis de reconnaissance. Alors, je rentre pas dans les détails parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais alors, je prends l'exemple typique du chômage. J'en ai parlé tout à l'heure aussi quand on parlait du djihadisme. C'est certain que quelqu'un qui se sent en capacité de travailler et qui tout à coup perd son boulot, ou qui, c'est le cas de pas mal de jeunes aussi, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Quelque part, il se sent atteint au plus profond de lui-même. Il éprouve le déni de reconnaissance. C'est-à-dire on lui dénie le droit d'être reconnu pour ce qu'il vaut. Et donc ça affecte très profondément son respect de soi et son estime de soi. Ça provoque une souffrance sociale, dit Axel Honneth. Alors là, la question de savoir que devient cette souffrance sociale, elle peut prendre différentes formes. Ça peut passer par la honte. Je ne vaux rien, je suis une merde, je ne mérite pas de vivre. Alcoolisme, dépression, c'est des choses connues. Lorsque des régions sont frappées par le chômage. Et ça peut prendre aussi un aspect plus positif, la révolte, l'indignation, la protestation. Et là, à ce moment-là, ça passe par des sentiments que je trouve positifs, comme le sentiment de la colère. Alors là, c'est un point intéressant sur lequel j'avais commencé à réfléchir à ça quand j'avais... En travaillant sur l'action du djihadisme aussi. Je pense que la colère, c'est quelque chose de... il y a des colères dangereuses, néfastes. Mais dans la colère, il y a toujours un sentiment du juste et de l'injuste. Il y a un vieux philosophe latin, Cicéron, s'appuyant sur des auteurs plus anciens, qui disait « La colère, c'est le fait de ressentir qu'on a été victime d'une injustice. » à tort ou à raison, c'est peut-être une fausse, on se trompe peut-être, mais on a l'impression qu'on a été victime d'injustice, qu'on a subi un tort. Voilà. Et ça, c'est à ce moment-là qu'on est en colère. Donc la colère maintient un rapport au juste et à l'injuste, elle maintient une idée de la justice. Alors que lorsqu'on passe de la colère à la haine, là ça va pas. Là il se passe quelque chose de très très différent, parce que la haine, elle, n'a plus aucun rapport avec le juste et l'injuste. Celui qui éprouve la haine, il désire plus qu'une chose, il désire anéantir son objet de haine. Quoi qu'il ait pu faire. Alors je me suis dit, il se passe quelque chose que je n'avais pas perçu moi, bobo de centre-ville, comme on dit, centre-ville, oui. J'habite comme dans un beau quartier de Strasbourg, même si c'est tout proche des cités. Je suis un bobo de centre-ville, j'assume, faut pas. J'ai toujours refusé de porter le gilet jaune, sauf une fois, dans une circonstance très particulière, que je vous dirai peut-être dans la discussion si vous voulez, mais je voulais afficher quelque chose là de précis. Mais autrement, manifestant avec les gilets jaunes, allant les voir. Faisant charger par la police avec eux, etc. J'ai toujours refusé de mettre un gilet jaune parce que ça me paraissait indécent, parce que je gagne beaucoup plus en tant que prof d'université que les gens qui mettaient le gilet jaune. Donc voilà. Mais quand même, je me sentais solidaire d'eux pour certaines raisons, et d'autant parce que j'ai eu l'impression que ces gens-là souffraient d'un manque de reconnaissance, d'un déni de reconnaissance, qui n'était pas forcément lié au chômage, bien qu'il y ait aussi des chômeurs parmi eux, qui étaient liés au fait d'habiter dans certaines zones reléguées, d'avoir l'impression qu'on ne s'occupait pas d'eux, qu'ils étaient devenus invisibles, et qu'on pouvait donc les taxer, leur imposer des limitations de vitesse, des choses comme ça, et surtout les mépriser. Je pense que ça a été une révolte, une colère de gens qui se sont sentis méprisés par l'État. Le mépris, c'est la forme typique de la non-reconnaissance. Mépriser quelqu'un, ça veut dire ne pas le reconnaître pour ce qu'il est, mais le considérer comme inférieur. Je ne tiens pas à faire de la politique, je suis pas là, c'est pas un meeting électoral et je suis d'aucun parti d'ailleurs, mais je ne veux pas donner mon jugement sur la politique suivie par l'actuel président de la République, mais quand même, il y a quelque chose qui le différencie profondément de tous les présidents qui sont succédés, de droite et de gauche. C'est que pour des raisons très curieuses qui tiennent à sa formation, je ne sais pas, ou à son caractère, ou c'est, il a affiché à plusieurs reprises, de manière ostensible, son mépris. Ce que ni Sarkozy, ni Hollande, ni Chirac, ni Mitterrand, qui pourtant avait des bonnes doses de mépris quand l'écoutait parler en privé, semble-t-il, ni surtout pas de Gaulle, qui avait pourtant dit que les Français étaient dévots, un jour il était un peu échauffé, quoi. Bon, aucun d'eux n'avait prononcé des paroles si méprisantes envers les gens, hein, envers les simples gens. Hein, bon, dans les gardes, a-t-il dit, il y a des gens qui ont réussi, on rencontre des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Il a parlé aussi des Gaulois réfractaires au changement. Il a parlé des fainéants, il a parlé des sociales qui coûtent un pognon de dingue à l'État. Il a dit à un jeune chômeur, je t'amène, on traverse la rue, je trouve un boulot. Bon, alors moi, je trouvais ça déplaisant, indécent, étrange, la bouche d'un politique qui représente, censé représenter la nation. Mais je n'avais pas pensé, parce que je ne me sens pas visé, je ne me sentais pas visé, n'étant ni gaulois réfractaire, ni fainéant, et n'ayant pas l'impression d'être à tort d'être rien, quoi. Bon, je ne me sentais pas visé personnellement. Et je n'avais pas compris que des millions de gens avaient pris de plein fouet le mépris venant du chef de l'État. Et que ça avait provoqué un sentiment de souffrance. Ça avait plutôt aggravé, intensifié une souffrance née de la non-reconnaissance. Puisque même le président, qui est censé représenter l'ensemble de la nation, me considère comme quelqu'un qui n'est rien, quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un qui ne compte pas, qui ne vaut rien. À ce moment-là, bon, je n'existe plus, je ne suis plus rien. Voilà. Donc on est au cœur même de ce déni de reconnaissance que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Alors donc, le déni de reconnaissance engendre la colère, et la colère peut très facilement virer à la haine. Il y a une différence de fond, conceptuelle, je dirais, entre la colère et la haine, je l'exposais tout à l'heure, mais ces deux affects peuvent facilement basculer l'un dans l'autre. Quelqu'un qui est très en colère peut très vite passer à la haine. Et là, c'est très difficile de revenir en arrière, parce que lorsqu'on a la haine, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on est eu par la haine, c'est qu'on est possédé par elle de part en part. Et c'est très dur d'arrêter, parce que la haine est contagieuse. Quand on déteste quelqu'un, celui-là vous déteste en retour. Tout ça, Spinoza l'avait magnifiquement analysé. C'est un de ceux qui ont le plus profondément analysé dans son éthique, livres 3 et 4, le jeu des affects qu'il appelle les passions tristes, qui naissent effectivement de la tristesse et de la haine, et qui, bon, sont la cause de la servitude de l'homme, de l'aliénation, de la misère, au fond, de l'homme. Bon, alors, la haine, oui, il y en a chez les Gilets jaunes, sans aucun doute. Le passage de la colère à la haine, il a eu lieu, peut-être pas chez tous, mais chez beaucoup. Et la haine, elle s'est polarisée de manière très forte sur Emmanuel Macron. Bon. Je pense, quelque part, il y a un effet de boomerang. Quand on exhibe son mépris, quand on est un président de la République, et pas un citoyen lambda, quand on est censé représenter les gens, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça fait penser au livre de l'ancien président. Un président ne devrait pas dire ça. Là, effectivement, bon, il n'aurait pas dû dire ça. Bon, il a dit. Donc des millions de gens se sont sentis méprisés, déniés, non reconnus. Ils ont réagi par la révolte, par la colère. Et la colère est virée à la haine. Et il y a eu, effectivement, bon, l'expression d'une haine très intense. Et ça, c'est le point où je ne veux pas suivre les Gilets jaunes, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la colère, oui, la colère a un rapport à la justice. Mais la haine, non. La haine est radicalement mauvaise. C'est peut-être un des noms du mal radical. Bon, là, je parle qu'ancien et non pas spinoziste, mais c'est au fond la même chose. Je pense que bon, c'est une passion triste, c'est la plus triste des passions tristes, et elle est dangereuse, elle est destructrice pour une collectivité ou pour un État ou pour un peuple. Se laisser emporter par la haine, c'est toujours aller vers le pire. Donc le talon d'Achille des Gilets jaunes, c'est précisément la haine qui a surgi en eux, même si cette haine, on peut la comprendre. Et je pense que c'est par là que le pire pourrait s'introduire, aurait pu s'introduire dans ce mouvement. Ça aurait pu, par exemple, entraîner ce mouvement vers le racisme, ce qui n'a pas été le cas, me semble-t-il. C'est un point que je ne vais pas développer, mais contrairement à ce qu'on a dit, je ne pense pas que les Gilets jaunes étaient profondément racistes, antisémites, etc. Je pense que c'est faux, je pense que c'est des phénomènes extrêmement marginaux et secondaires. C'est pour ça que j'ai soutenu ce mouvement aussi. Si j'avais senti la moindre once de racisme, je serais parti. Enfin, j'étais le premier manif des Gilets jaunes, j'étais en janvier à Strasbourg. Je regardais toutes les pancartes, tout ce qui était marqué sur les gilets. Je cherchais la phrase indécente. J'ai trouvé un truc un peu complotiste, quelque part. Une affiche un peu complotiste qui m'a gêné, mais une affiche parmi 5 ou 600 qui me paraissait tout à fait juste. Donc je dis, ok, bon, je reste. Ce n'est pas un mouvement fasciste, ce n'est pas un mouvement raciste, mais c'est un mouvement haineux. Et donc, il y a un problème. Donc, je ne suis pas gilet jaune à 100% aussi pour ça, parce que, bon, la haine, non, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux, ça pose problème. Je distingue quand même la question de la haine et la question de la violence. Ce sont deux choses différentes. Parce qu'un homme en colère peut être très violent. Le premier geste de la colère, c'est de tendre le poing, c'est-à-dire de menacer, de casser la gueule de l'autre. La colère peut être violente. Là, ce sera un débat très long, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Ce sera un beau sujet de Café Philo, ça, la question de la violence. Est-il une violence légitime? Ça tombe au bac tous les 3 ou 4 ans. Bon, une violence qui s'en prend, je dirais en deux mots ma position, une violence qui s'en prend à des objets, un restaurant de luxe, des 4x4, c'est très dommageable, ou un buste en plâtre de Marianne, c'est très dommageable, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça fait travailler les assurances, c'est pas bien, il faut pas. Je suis opposé à ça. Mais c'est pas une violence terroriste, c'est pas une violence exterminatrice. Donc je pense que la violence qu'il faut absolument condamner, qui est par principe mauvaise, c'est une violence qui s'en prend à l'intégrité des personnes. Une violence qui blesse, qui mutile ou qui tue. En ce sens-là, bon, clairement, le djihadisme, toute forme de terrorisme est absolument condamnable, sans réserve, parce qu'elle s'en prend aux personnes. Bon, brûler une voiture, c'est pas bien. On en brûle beaucoup à Strasbourg pour le Nouvel An et personne ne proteste. Mais bon, c'est autre chose que de tuer ou de blesser ou de mutiler. Or, les mutilés et les blessés, ils sont plutôt chez les gilets jaunes, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi une violence de l'État, une violence de la police qui était vraiment, vraiment démesurée, je trouve, disproportionnée. J'ai assisté moi-même à une charge sans sommation de policiers contre une manif tout à fait pacifique à Strasbourg. On était près d'un centre commercial. Il y a un petit gamin de 15 ans qui ne manifestait même pas, qui sortait du centre commercial où il avait acheté un blouson, qui a reçu un LBO, enfin un flashball LBO, quasiment à bout portant, qui lui a explosé la mâchoire. Il a passé 8 heures sur le billard en salle d'opération pour qu'on essaie de lui refaire un visage. Là, il y a que, jusqu'à présent, aucun policier n'a été poursuivi ou interpellé pour cet acte de guerre. Je pense que là, il y a un usage de la violence qui n'est pas du côté des gilets jaunes. Je dis ça aussi parce qu'on a suffisamment dit que c'était des émeutiers violents, des foules haineuses, des foules agitées par le désir de destruction. Il y avait de la colère, il y avait de la violence, et il y avait de la haine que je condamne, parce que même si je peux la comprendre. Mais la vraie violence, c'est la violence qui attaque, qui mutile, qui éborgne, elle était de l'autre côté. Et je la trouve vraiment très problématique dans un État républicain et démocratique. Fin de la parenthèse. Alors je reviens donc à cette question de la reconnaissance. Oui, bon, il y a un profond déni de reconnaissance qui ne se réduit certainement pas aux phrases très malheureuses, mais systématiques et délibérées de l'actuel président de la République. Comment interpréter ce déni de reconnaissance? Alors, il y a quelqu'un qui avait trouvé une solution, qui avait cru trouver une solution géniale pour régler le problème de la plèbe. Pas vraiment un élève de Hegel, mais il était très, très, très hegelien, quelque part. Finalement, c'est le plus grand disciple de Hegel, c'est le jeune Karl Marx, dont tout le monde a entendu parler. Et il avait trouvé une solution pour métamorphoser la plèbe en quelque chose d'autre. Il avait transformé la plèbe en une sorte de messie. Pas le footballeur, le messie au sens du Christ Jésus. Le messie, le sauveur. Il appelait ça le prolétariat. En transformant la plèbe en prolétariat, il en a fait une classe qui était le sauveur de l'humanité. Une classe qui est, dit-il, universelle, parce que le tort qu'elle subit est lui-même universel, et elle représente, c'est le très jeune Marx, hein, mais il n'a jamais abandonné au fond cette idée, une classe qui, dit-il, représente la perte totale de l'homme, et ne peut se reconquérir que par la reconquête totale de l'homme. Ça veut dire que c'est vraiment le Messie, c'est le Christ en croix, un Christ collectif, qui par sa souffrance va être le rédempteur de l'humanité. Marx, ça a été dit par et peut-être le dernier grand penseur chrétien de ce point de vue-là, ou un prophète messianique. Bon, alors bon, ce prolétariat, je pense que en son nom, on a commis pas mal de crimes, des dizaines, de millions de morts, des centaines même peut-être, dans les pays qui sont réclamés du marxisme, comme chacun sait. Mais il avait une vertu quand même, ce mythe du prolétariat, parce que c'est un mythe religieux. Le marxisme est une religion séculière. Et j'ajouterai une religion d'autant plus bizarre qu'elle se prétendait non-religieuse, anti-religieuse. que se prétendait matérialiste, scientifique, athée, alors qu'elle était totalement religieuse de part en part, et fondée justement sur un mythe profondément religieux qui est le mythe du Messie, un mythe héritier des traditions juives et chrétiennes et de l'Occident. Bon. Eh bien, le prolétariat avait comme un intérêt, ce qui permettait aux gens qui s'identifient eux-mêmes comme prolétaires d'être reconnus. Hein, l'ouvrier exploité pouvait se dire « mais je fais partie de la classe Messie, je fais partie des sauveurs de l'humanité. Hein, par mon action, dans mes syndicats, dans mon parti révolutionnaire, je vais sauver l'humanité entière en faisant arriver le paradis sur la terre qu'on appelait le communisme. » Bon, donc ça a pu limiter cette souffrance et ce déni de reconnaissance qui caractérisait la plèbe selon Hegel. Puis voilà, bon, Marx est mort, comme on dit, bon, le prolétariat est mort, il n'y a pas que les dieux qui meurent, puis, de toute façon le prolétariat c'est une figure assez divine, assez religieuse, il est mort. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait plus d'ouvriers, il y a une classe ouvrière, elle existe, mais elle ne peut plus se représenter comme prolétariat. Elle ne peut plus se représenter comme la classe qui va être le rédempteur collectif de l'humanité en faisant venir le paradis sur la terre. Et donc, au fond, on se retrouve maintenant, après un siècle et demi de mouvement communiste et son effondrement, on se retrouve peut-être dans la situation qui était décrite par Hegel. Ce qui fait que Hegel est, au fond, plus actuel que Marx, beaucoup plus actuel. C'est-à-dire qu'on se retrouve non plus face au prolétariat messie qui va sauver l'humanité, on se retrouve face à la plèbe. À la plèbe au sens de Hegel, c'est-à-dire aux gens qui souffrent de ne pas être reconnus par l'État et qui donc se révoltent contre l'État et le gouvernement. Et peut-être qu'au fond, le mouvement des Gilets jaunes, il faut désigner comme un mouvement plébéien, comme un soulèvement plébéien. Et peut-être que la mort du prolétariat, la décomposition du mythe prolétarien et des mouvements communistes qui s'en réclamaient, ça a entraîné une résurgence de la plèbe. Et peut-être aussi que ça permet d'expliquer des choses qui se passent dans les banlieues, parce qu'il y a aussi de la plèbe dans les banlieues. Et que les révoltes des banlieues et les dérives vers le djihadisme, c'est tout autre chose que les Gilets jaunes, mais c'est peut-être aussi une autre manifestation de cette souffrance sociale qui est celle des nouveaux plébéiens. Voilà, c'est une première approche, si vous voulez, où là j'utilise mes auteurs fétiches pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. J'utilise mes concepts pour comprendre. Alors je reviens un petit peu à cette question de la haine, hein, qui est le point où je ne peux pas suivre les Gilets jaunes, parce que la haine est radicalement mauvaise. Je reviens à Freud, que j'évoquais tout à l'heure. Freud, dans cette analyse vraiment admirable, je trouve, à lire, je relis toujours ce texte, et je trouve absolument fascinant d'intelligence, de compréhension. Enfin, dans ce texte, donc Psychologie des masses et analyse du moi, là, il y a une petite remarque, il parle beaucoup de l'amour qui unit entre les membres de la masse et de l'amour qu'ils éprouvent collectivement pour le chef, qui est en fait l'idéal, leur idéal du moi, c'est-à-dire une figure du père transfiguré, du père idéalisé. Mais bon, l'amour ne va jamais sans la haine, nous dit Freud. Ça me paraît très intéressant comme idée. Ceux qu'on aime, on les déteste aussi, souvent inconsciemment. Et il arrive, comme le fait remarquer Freud, que lorsque l'amour s'arrête, la haine inconsciente devienne consciente. Et dans les ruptures de couple, souvent, ça passe très vite de l'amour à la haine. Bon, donc ce que Freud appelle l'ambivalence. Hein, ambivalence pulsionnelle, pas d'amour sans haine, pas de haine sans amour. Parce que c'est comme ça que le petit enfant éprouve son rapport complexe à ses parents dans son enfance. De l'amour, mais aussi de l'agressivité. Pulsion de vie, pulsion de mort, bon, mais c'est un autre sujet. Alors cette haine, Freud l'évoque très brièvement, dans un passage très curieux de Psychologie de masse, 5-6 lignes. Il dit, bon, l'amour, ça unifie, c'est l'amour qui fait consister la masse. Il dit, bon, la haine aussi peut unifier, ce qui est très intéressant. Il dit, il y a des cas, dit Freud, où la haine peut avoir le même effet unifiant que l'amour, et où la haine envers une personne, ou envers une idée, ou un groupe déterminé, peut cimenter, unir une masse. Ah, je trouve ça très fort et très intéressant. Il ne développe pas cette idée qui est très riche. Mais effectivement, bon, c'est une idée forte. C'est une idée forte. On peut même définir assez bien comme ça ce qu'on pourrait appeler la masse totalitaire. La masse totalitaire, c'est une masse qui éprouve à la fois l'amour intense envers son chef, envers le Führer, le meneur, le guide, et la haine intense envers l'ennemi absolu que le chef lui désigne. Hein, le juif pour les nazis, le saboteur trotskiste, ou le bourgeois capitaliste pour les staliniens, etc., etc., etc. Donc le chef, c'est celui qui concentre vers lui tout l'amour et qui désigne une figure de l'ennemi absolu qui concentre toute la haine. Bon, c'est comme ça que marche, je pense, la masse totalitaire, ou aussi bien les dispositifs de terreur qu'on appelle terroristes, qui fonctionnent souvent aussi comme ça. Alors chez les Gilets jaunes, bon, il y a de la haine, sans aucun doute une violente haine anti-Macron. Mais l'amour du chef, encore une fois, on ne le voit pas, parce qu'il n'y a pas de chef. Donc, ce n'est pas une masse totalitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette haine sans amour, sans amour du chef ? Il y a peut-être de l'amour qui s'est passé entre les membres de la masse. Ces gens qui étaient isolés, qui souffraient de leur isolement, leur non-reconnaissance, de leur invisibilité, ils ont certainement éprouvé un très important sentiment de joie à sortir de l'isolement, à être ensemble, à se regrouper sur les ronds-points, à discuter, à faire d'assemblée générale, à manifester. Je pense qu'il y a eu de la joie dans ce mouvement. Il y a aussi de l'humour aussi. On a, peut-être pas d'amour, mais de l'humour dans pas mal de slogans, de chansons, etc. Bon, voilà. Il y a eu la joie d'agir en commun, ce qui est une chose très positive. Là, on est encore dans Spinoza. La joie, qui est le sentiment qu'on vit plus, que notre puissance de vivre augmente, qui est l'antithèse même de la tristesse et de la haine, qui est au contraire une diminution de notre puissance de vivre. Et plus on s'unit au sein d'une multitude, plus on augmente notre pouvoir d'agir. Un seul, on peut rien. En groupe, on commence à pouvoir plus. Vous voyez, Spinoza avait une conception peut-être moins pessimiste, moins tragique que celle de Freud. Parce que pour Freud, la masse est toujours régressive. Donc soit c'est l'amour infantile pour le père, soit c'est la haine envers une autre figure du mauvais père, si on pour aller vite, ou la mauvaise mère. La masse est toujours infantile et archaïque. Spinoza a une conception plus fine, plus intéressante. Il parle de multitude et pas de masse. Multitudo en latin, il écrivait en latin. Multitude, c'est un beau terme, un très beau terme. Parce qu'il y a l'idée du multiple, l'idée de la pluralité. Il n'y a pas dans la masse. Dans la masse, au contraire, c'est paf, le bloc. Or, c'est jamais si simple. Même dans l'Église, je ne sais pas s'il y a des chrétiens nombreux ici, mais les chrétiens savent très bien que l'Église n'est pas une masse ou un bloc, mais que c'est très complexe, qu'il y a différents courants, différentes tendances, différentes sensibilités, c'est vrai, toutes les religions, et de toutes les soi-disant masses. Alors Spinoza, bon, essaie de penser la complexité, la multitude. Il y avait, dit-il, des multitudes féroces, qui sont mues par la haine et par le désir de mort, notamment ces gens qu'il avait vu lyncher ses amis au cours d'une émeute en Hollande, qu'il appelait les plus extrêmes des barbares, ou Timi Barbari. Bon, donc il y a des multitudes féroces, mais il y a aussi des multitudes positives, des multitudes créatrices, des multitudes affirmatives, qui accroissent le pouvoir d'agir de chaque individu en composant leur pouvoir d'agir. Et ça, c'est la base même du politique, c'est-à-dire de la démocratie. Parce que pour Spinoza, bon, la démocratie, c'est ce qu'il appelle l'état absolu, c'est-à-dire c'est le fond même du politique. Toute politique est foncièrement démocratique, même si lorsqu'elle se met en mouvement, lorsqu'elle se concrétise dans des institutions, elle peut prendre des formes très différentes. Mais au départ, ceux qui font la politique, ce sont les multitudes, et donc c'est le peuple, c'est un peuple. Alors voilà, donc j'en viens à la seconde partie de mon exposé, je vais essayer de parler une vingtaine de minutes, puis d'arrêter, pour ne pas être trop long. J'essaie de définir donc les Gilets jaunes comme un soulèvement plébéien, fondé sur la souffrance d'un non-reconnaissance. Et donc, qui consiste comme masse, au sens freudien, non pas par l'amour du chef, mais par la haine de l'ennemi. Mais c'est très insuffisant, hein, parce que ce mouvement n'était pas uniquement mu par la haine. Il y avait aussi ce que je disais tout à l'heure, la joie d'être ensemble, hein, la joie de parler, de discuter, de sortir de l'isolement, hein, la joie d'exister en tant que sujet, et j'ajouterais d'exister en tant que citoyen. C'est-à-dire d'exercer sa capacité politique, d'intervenir dans la vie de la cité, de dire ce qui ne va pas et ce qui devrait aller mieux. Et là, j'en viens au point qui m'intéresse le plus dans ce mouvement, parce que le reste, au fond, c'est, pour moi, limite, on pourrait laisser ça à un sociologue, peut-être, hein, cette tentative de chercher la base sociale des Gilets jaunes. Bon. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est cette exigence de démocratie. Parce que là, il y a ce qui a décidé mon engagement, mon implication, si vous voulez, ce qui fait que j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait, c'est que le mouvement a changé très vite. Au départ, c'était une révolte contre des taxes sur l'essence, augmentation de taxes, donc quelque chose de très, très classique. Ça, il y en a eu dans toute l'histoire de la France depuis le Moyen-Âge, des grandes révoltes contre les taxes, les bonnets rouges bretons, enfin bon, voilà, au XVIIe siècle, la révolte contre la gabelle, contre l'impôt sur le sel qui avait embrasé l'Aquitaine au XVIe siècle. La Révolution française a commencé aussi par des révoltes contre les taxes et les impôts, c'est une très, très vieille chose. Voilà, et le boujadisme aussi, c'était ça au départ. Puis très vite, en l'espace de quelques jours, ou peut-être une quinzaine de jours au maximum, hein, déjà à la mi-décembre, bon, presque un mois, le mouvement avait pris une toute autre nature. Hein, là, il y a une déclaration faite au jeu de paume, c'est pas un hasard d'ailleurs, hein, une déclaration qui était faite, qui avançait des revendications proprement politiques et des revendications qui mettaient en avant des propositions pour rénover, pour réactiver la démocratie. Notamment ce fameux RIC dont tout le monde a entendu parler, le fameux référendum d'initiative citoyenne, bon, qui est une intervention sur le politique. Alors vous voyez, là, on change totalement de niveau. On passe d'une une revendication sur les 80 km/h sur les routes nationales ou sur la hausse des taxes sur le carburant. C'est tout à fait honorable, mais on reste dans l'économique, dans le social. Et hop, le mouvement, en moins d'un mois, passe sur le plan politique. Il met en cause la manière dont fonctionne l'État, la manière dont fonctionne la démocratie en France et en Occident. Il propose de rénover la démocratie en instituant d'autres modes de fonctionnement, en instituant quelque chose. Et là, bon, donc pour rendre la démocratie française plus démocratique. Ça encore, qu'on dise ce qu'on veut, ça nous éloigne quand même un peu du fascisme qui n'était pas spécialement amoureux de la démocratie. Le fascisme, ça se définit aussi par sa haine virulente et déclarée de la démocratie, considérée comme décadente, etc. Bon, bien. Donc là, au contraire, il y a une volonté démocratique. Donc le soulèvement des Gilets jaunes, c'était aussi un soulèvement démocratique. Bon. Et son fonctionnement même, il était démocratique. J'en parle un peu au passé, parce que c'est vraiment la fin, mais... J'ai assisté à des assemblées générales qui avaient lieu à Place de la République tous les samedis matins à Strasbourg. J'ai assisté à ce qu'ils appelaient des quartiers généraux, des QG, où des gens venaient de différents petits villages ou de petites bourgades se rassembler à Strasbourg, faire le bilan des actions qu'ils faisaient. J'ai assisté à une coordination des quartiers généraux du Grand Est. Il y avait sans doute des gens de Lorraine qui étaient venus. En tout cas, il y avait des gens de Commercy qui ont discuté près de Strasbourg à Ilkirch. Pendant toute une journée, j'étais très frappé par le respect démocratique de la parole, le refus absolu de toute tentative pour monopoliser la parole, pour manipuler l'Assemblée, pour parler trop et pour parler à la place d'eux. Le temps de parole était limité. Lorsque quelqu'un commençait à atteindre sa limite, on faisait des signes, etc. Il y avait une intelligence collective à l'œuvre, une vraie intelligence collective. Et j'ajouterais, bon, et ça me touche beaucoup en tant qu'universitaire et intellectuel, une intelligence collective qui ne venait pas d'universitaires et d'intellectuels, qui venait de gens d'en bas, hein, de gens qui n'avaient pas de diplôme, qui n'avaient pas passé la grègue, qui n'avaient sans doute pas été à l'université, et qui raisonnaient de manière forte, puissante et intelligente. Et ça me paraissait extrêmement intéressant de voir et d'entendre ça. Donc rien que pour ça, bon, je ne renierai pas cette solidarité avec ce mouvement-là, voilà, malgré cette dimension problématique. Donc il y avait un exercice réel, collectif de la démocratie que j'ai pu observer. Tout le contraire d'une masse asservie à son chef, à son fureur. Tout le contraire même. Et bon, revenons un petit peu à ce fameux RIC. On a dit oui, le référendum, c'est le plébiscite, c'est le populisme. Voir. Il y a un pays tout proche qui pratique des référendums de ce type, c'est la Suisse, qui ne passe pas spécialement pour un pays totalitaire et fascisant. Bon, une amie suisse m'a montré, j'en ai parlé encore récemment, j'étais à Genève il y a 10 jours, c'est très étonnant lorsqu'il y a une initiative populaire, ils appellent ça, une initiative citoyenne pour une votation, disent-ils. À ce moment-là, bon, il y a un projet qui est rédigé, il y a un contre-projet qui est fait par des gens soit du canton, soit de l'État. Ça se fait à trois niveaux, municipal, cantonal et fédéral. C'est-à-dire, bon, donc il y a à la fois un projet, un contre-projet, des commentaires. Donc il y a une sorte de grosse brochure qui est envoyée à tous les citoyens pour qu'ils puissent discuter. On en parle, on en débat pendant des mois dans des assemblées, etc. C'est le grand débat institué. Et après, ils essaient de voter en connaissance de cause. Donc il y a une très grande confiance dans la capacité, et j'insiste beaucoup sur le terme de capacité, dans la capacité collective des citoyens. On ne les considère pas comme des gens qui se contentent de voter une fois tous les 5 ans, d'élire des représentants et de laisser les représentants discuter, agir à leur place. Il y a une volonté de mobiliser la capacité collective des citoyens. Bon, alors, le RIC, malgré tout, ne fait pas la démocratie à lui seul. Parce qu'un référendum, même préparé par un très intense débat, il reste un moment ponctuel. Donc, par un côté, ça remédie à certaines des limites de la démocratie que nous connaissons. Une démocratie où, au fond, le peuple se détermine une fois tous les 5 ans, puis retourne chez soi, et donc cesse d'exister comme peuple. Le RIC, bon, il multiplie les moments où le peuple peut se prononcer. Mais ça reste des moments, des instants séparés. Il y avait autre chose que j'ai senti chez les Gilets jaunes, qui était dit notamment par des textes des Gilets jaunes de Commercy, donc des gens de Lorraine, mais un peu plus loin, enfin, loin d'ici. Là, c'est des textes tout à fait remarquables. Hein, si vous pouvez vous les procurer, on les trouve. Ils ont été édités aux éditions du Seuil, je crois, dans un petit recueil qui s'appelle « Le fond de l'air est jaune ». Aussi aux éditions du Croquant, il y a eu un autre recueil de textes, des textes tout à fait intéressants, hein, qui revendiquaient un autre type de démocratie, une démocratie directe. Ils appelaient déjà en décembre à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière et qui, ajoutait-il, se coordonneraient de manière horizontale, toujours au refus du chef, hein, en choisissant des délégués, je cite, avec des mandats impératifs, révocables et tournants. Et il disait encore, je cite toujours, les revendications des Gilets jaunes vont bien au-delà du pouvoir d'achat. Ce que nous voulons, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Un système nouveau où ceux qui ne sont rien, comme on le dit avec mépris, nous y voilà, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent sur les dirigeants et les puissances de l'argent. Alors, si vous trouvez ça fasciste, je comprends plus ce que veut dire fasciste. Non, c'est un texte profondément démocratique. Ce que nous voulons, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors, c'est ainsi que définit la démocratie un certain Abraham Lincoln. Bon. Donc là, on a effectivement une insurrection démocratique, ou plutôt, je dirais, un soulèvement démocratique, mû par une certaine idée de la démocratie. Bon. Laquelle ? Et là, j'en viens vers ma toute dernière partie, parce qu'il faut quand même qu'on ait du temps pour discuter. Une démocratie qui n'est pas la démocratie instituée aujourd'hui dans les grands pays qui se disent démocratiques, qui est une démocratie représentative. Nous vivons un régime de démocratie représentative. C'est-à-dire que, encore une fois, le peuple se manifeste une fois tous les 5 ans ou tous les 4 ans en mettant un bulletin de vote. Et puis, hop, le peuple disparaît aussitôt, il se dissout. Et les représentants agissent et parlent à sa place et en son nom, au nom du peuple français, comme disent les juges. C'est comme ça que nous concevons la démocratie. Ce n'est pas la seule manière possible de concevoir la démocratie. Il y a un très grand penseur politique, un des plus grands encore, j'ai évoqué tout à l'heure Machiavel, mais là c'est un Suisse plutôt, il est toujours en Suisse, c'est peut-être pas un hasard, et c'est bien sûr Jean-Jacques Rousseau. Dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau essaie de fonder ce qu'il appelle la République, hein, sur la souveraineté de la volonté générale, la volonté générale du peuple. Or la volonté générale, dit clairement Rousseau, ne se représente pas. Et là, il a en tête le régime de type anglais, la démocratie parlementaire, enfin, la monarchie parlementaire anglaise. Dès qu'un peuple est représenté, il cesse d'être libre, écrit Rousseau, il cesse par là même d'exister. Un peuple qui est représenté se dissout en tant que peuple. Et donc, ce qu'il propose, bon, c'est d'essayer de trouver des modes de démocratie qu'on appellerait directs. C'est compliqué Rousseau, j'ai pas le temps de développer ça, je vois qu'il est déjà assez tard. Il dit aussi que c'est un régime tellement parfait à démocratie qu'elle serait possible que pour des dieux. S'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement, mais pour les hommes c'est plus difficile, dit-il. Bon, laissons ça de côté, on pourra en discuter peut-être. Mais il y a comme cette idée d'une autre démocratie, d'une démocratie plus authentique, qui serait l'expression directe de la volonté générale du peuple s'exprimant sans ses représentants. Alors, les Gilets jaunes de Commercy ou d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils aient lu Rousseau, ni Hegel d'ailleurs, ni Machiavel, mais ils avaient retrouvé le sens profond, peut-être le sens premier de la démocratie, celui que lui avaient donné les Grecs. Hein, parce que la démocratie athénienne, c'était l'ecclésia, l'assemblée du peuple, se réunissant sur l'agora pour voter les lois et pour élire les généraux, les stratèges, les juges et le gouvernement, la boulet. Pour discuter des questions politiques. Une démocratie un peu restreinte, puisque ni les femmes, ni les esclaves, ni les étrangers, qu'on appelait les métèques, n'avaient le droit de faire partie de l'Assemblée, mais une démocratie directe quand même. Donc c'est ce vieux idéal de la démocratie grecque, de la démocratie selon Rousseau, un idéal qu'on retrouve aussi chez les sans-culottes de la Révolution française. Hein, si on a le temps, je vous citerai quelques textes. Hein. C'est cet idéal-là que j'ai retrouvé dans les revendications des Gilets jaunes. Et ça, c'est très intéressant, ça. Parce que, on dit toujours que, On n'apprend plus l'histoire aux enfants, le roman national s'est perdu. Et je suis quand même très, très intéressé de voir des gens qui, encore une fois, ne sont pas des agrégés de philosophie, retrouver bon, des revendications qui ont été mises en avant par les sans-culottes de la Révolution française, et retrouver aussi, bon, si vous avez vu les manifestations de Gilets jaunes, les bonnets phrygiens, bon, serment du jeu de paume, les petites guillotines pour guillotiner les effigies de Macron, bref, tout un symbolique républicaine de la Révolution française, ce qui n'est quand même pas rien. Bon, la fête nationale, c'est quand même le 14 juillet. Donc il y a à la fois un ancrage fort dans une tradition républicaine et démocratique française et une volonté de mettre en cause, de mettre en question la démocratie représentative, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de la démocratie telle qu'elle existe dans tous les pays qui se disent démocratiques. Au nom d'une démocratie pensée comme plus vraie ou plus réelle, qui est cette démocratie directe, conforme notamment aux thèses de Rousseau et à ce qu'a été la démocratie grecque. Donc quelque chose qui, à mon avis, bon, mérite d'être pris au sérieux. Alors je conclue, parce que j'ai déjà... Ça fait une heure que je parle sans doute trop. On n'est pas une assemblée de gilets jaunes, autrement vous m'auriez déjà coupé la parole. En disant, 5 minutes, ça suffit. Bon. Ouais, qu'est-ce qu'on voit là apparaître? On voit apparaître quelque chose que les médias n'ont pas mis en avant. Puisque les médias se sont focalisés sur quoi? Sur les violences, bien sûr, le Fouquet's qui brûle, le bus de Marianne qu'on a profané, blasphème contre la République, ou aussi, plus intéressant et peut-être plus pervers, s'apitoyer sur des cas individuels de personnes en souffrance, en galère, qui disent pourquoi ils ont rejoint les Gilets jaunes. Donc, ce qui est un mouvement collectif, on le dissout en cas privé, en cas individuel. Ce qui est un mouvement affirmatif, un mouvement qui propose quelque chose, on le dissout dans des histoires de souffrance individuelle. Mais cette revendication de plus de démocratie, elle permet précisément de dépasser la souffrance individuelle, la souffrance sociale que j'évoquais tout à l'heure, une souffrance née de la non-reconnaissance, en proposant des voies pour sortir de la non-reconnaissance, pour être reconnu en tant que citoyen à travers des modalités concrètes, des institutions comme le référendum d'initiative citoyenne ou comme ces assemblées populaires se coordonnant les unes aux autres. Bon, ce qu'en à une autre époque, dans un autre pays, on appelait des soviets, c'est-à-dire des conseils. Parce que c'était ça, le premier sang de Soviet avant Staline. C'était des conseils d'ouvriers, de paysans, de soldats, de travailleurs qui voulaient prendre en main le pouvoir de l'État lors de la première révolution russe. Et des soviets, des conseils ouvriers, ben, ma foi, il y en a eu pas mal aussi en Alsace, peut-être pas en Lorraine, mais en tout cas en Alsace, il y en a eu en novembre 1918, au moment où l'armée allemande s'est retirée. Il y a eu un moment quelques semaines avant que l'armée française arrive. Bon, ben, Strasbourg était dirigé par un conseil ouvrier, un conseil de soldats et d'ouvriers. Et c'est une certaine forme de démocratie directe qui est apparue à différents intervalles dans l'histoire de France et dans l'histoire d'autres pays. Il y en a eu aussi en Italie dans les années 20, etc. etc. Voilà. Ce n'est pas rien, à mon avis. Ce n'est pas rien. Alors, bon, pour conclure, j'ai dit tout à l'heure qu'une des limites de ce mouvement, me semble-t-il, c'est l'affect, le sentiment, ce qu'il y a de haineux dans ce mouvement. Là, ça me pose problème. Je pense que là, il y a quelque chose qui était la limite de ce mouvement. Maintenant, j'en viens à une autre limite qui est autre chose, qui se situe sur un autre plan, qui se situe au plan de ce que ce mouvement portait de plus profond, de plus radical et de plus vrai, à savoir son projet politique, le projet de refonder la démocratie sur la capacité politique collective des citoyens, en essayant de proposer une démocratie directe, une démocratie donc à la Rousseau, et non pas une démocratie telle qu'elle fonctionne actuellement. Alors le problème, si vous voulez, c'est que je ne suis pas certain qu'une démocratie directe, ça puisse exister, ou du moins que ça puisse persister. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose... La démocratie représentative est peut-être une fausse démocratie, une démocratie truquée, tronquée, etc. Mais la démocratie directe, historiquement, elle n'existait que dans des brefs moments. Bon. Je vous dirais, c'est pas sa faute. En général, elle a été écrasée par des forces hostiles, comme les sections sans culottes les plus radicales, qui ont été écrasées par Robespierre lui-même au printemps 1994. Hein, les gens qu'on appelait les enragés ou les hébertistes, ceux qui étaient pour le pouvoir des sans culottes, ils ont fini à la guillotine. Ça relativise un petit peu la fascination que beaucoup de gens ont encore pour le nommer Robespierre. Bon. Ou encore, je pense aussi aux communautés libertaires qui étaient apparues au moment de la guerre civile d'Espagne. Hein, là, j'en parlais tout à l'heure parce que j'ai revu ce très beau film de Ken Loach. Il passait à la télé la semaine dernière. C'est un film que j'ai dû voir 3 ou 4 fois qui me bouleverse presque jusqu'aux larmes. On voit ces milices de combattants républicains, antifascistes, antifranquistes, qui s'étaient organisés autour des anarchistes d'un parti appelé le POUM, dans lequel les femmes combattaient à l'égal des hommes, ce qui n'est pas rien. C'est pas rien, c'est rare. Les Kurdes, actuellement, on trouve ça aussi chez les Kurdes. Ça a un sens toujours très, très fort, quand les femmes sont considérées comme ayant le droit de combattre avec les hommes. Et qui, là, vivaient dans une sorte d'autogestion, collectiviser les terres, donner le pouvoir aux paysans, etc. Ils ont été écrasés, là, d'un côté par les franquistes, de l'autre par les staliniens. Il y a une scène terrible dans ce film où on voit les gens du Parti communiste, donc les staliniens, leurs camarades, leurs proches, qui font tirer sur ces milices en les accusant d'être des traîtres, etc. Bon. Donc, bon, voilà, ces foyers de démocratie directe, ils ont toujours été anéantis.
Oui.
Exactement, Land and Freedom. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir sur du meilleur d'une autre. C'est un film bouleversant, hein, des très très grands films de Ken Loach. Comment ? Oui, il était en Catalogne, absolument. Il était dans le même parti, dans le POUM. Il a écrit un livre qui raconte une expérience. Donc voilà, il y a aussi le cas où les soviets, les conseils, n'ont pas été écrasés, mais ils ont été vidés de leur substance. Ils sont finis par devenir des coquilles vides, et c'est ce qui est arrivé dans l'Union dite soviétique, qui très vite, dès les années 20, n'avait plus rien de soviétique, puisque c'était un parti, le parti bolchevique communiste, qui avait concentré tout le pouvoir et transformé les soviets en coquilles vides. Donc historiquement, ça n'a pas marché, ça ne marche pas. On dirait que ça pourrait peut-être marcher un jour. C'est ce que pensaient pas mal de Gilets jaunes avec qui j'avais pu discuter. Ou alors peut-être que ça ne peut pas marcher parce que... Bon, ça fait penser à un vieux gars qu'on racontait après 68 quand j'étais étudiant, lorsqu'on parlait beaucoup d'autogestion. À l'époque, le nom qu'on donnait à la démocratie directe était l'autogestion. Bon, c'est un propagandiste du PSU, du Parti Unifié, qui projetait l'autogestion aux ouvriers. Et alors, y a un ouvrier là, de la salle, qui dit « Oui, mais alors, les usines, alors qui c'est qui va les diriger ?» C'est vous, camarades, c'est vous les ouvriers qui dirigez les usines. Ah oui, d'accord, et les grands magasins, alors, qui c'est qui va gérer ça? Mais c'est vous, en tant que client, consommateur, qui allez gérer les magasins. Et ceci, c'est... Oui, c'est vous qui les gérez dans toutes les situations. Alors, il y a un... Mais alors, dit le type, on n'aura pas, on n'aura plus beaucoup de temps pour vivre. Et bon, c'est un peu ça, la limite de l'autogestion ou de la démocratie directe. Ça exige une mobilisation permanente, des multitudes plutôt que des masses, des gens mobilisés en multitudes actives. Ça exige une citoyenneté active permanente où du matin au soir on discute pour diriger tout. C'est très fatigant. Voilà, et ça laisse plus beaucoup de temps pour vivre, c'est-à-dire pour vivre en individu privé, non plus en citoyen. Et on a tous besoin d'avoir cette vie-là, d'avoir une vie privée, une vie un peu passive, où on se contente de vivre en famille, avec ses enfants, ses amis, etc. Et non plus de diriger l'État. Le socialisme, disait Lénine, c'est quand une simple cuisinière pourrait diriger l'État. Ça n'a pas trop marché en URSS, comme vous le savez. Mais vous voyez, le problème, c'est qu'il y a... Bon, voilà, ça, c'est, on trouve peut-être là une limite de l'action des multitudes. Il y a un moment où ça retombe. Il y a un moment où, comme un soufflet, les gens se fatiguent. Il faut tenir compte de la fatigue, il faut tenir compte de la passivité, il faut tenir compte du besoin de vivre comme un simple individu et non plus comme un citoyen. On ne peut pas être toujours, tout le temps, des citoyens politiques actifs. Et donc, ça veut dire que, bon, il y a une limite de la démocratie directe ou de la démocratie sauvage. Bon, dans le texte que j'écris, j'ai intitulé ce texte « Démocratie sauvage », en hommage à quelqu'un que j'ai connu, qui était aussi un très grand philosophe politique, qui est Claude Lefort. Hein, c'est bien, c'est « Démocratie sauvage », au sens aussi où on parle d'une grève sauvage. Hein, c'est-à-dire une grève qui éclate en dehors de tous les syndicats, sans avoir été délibérée, planifiée. Voilà. La démocratie sauvage a ses limites. Ce qui veut dire aussi... Qu'il faut de la démocratie représentative, il faut des représentants pour pouvoir continuer à s'occuper des affaires de l'État quand les citoyens sont redevenus passifs quelque temps et se contentent de vivre et non plus d'agir. Bon, et ça, Rousseau l'avait bien vu d'ailleurs. Hein. Pour lui, bon, le grand danger qui pesait sur la République, sur la démocratie qu'il entendait, c'est justement le fait que la volonté générale n'est pas toujours assemblée. Et donc, dans les intervalles entre les assemblées du peuple, les assemblées générales où la volonté générale s'exprime, là, il y a un risque que le gouvernement s'empare du pouvoir et recule toujours plus la prochaine assemblée et finalement finisse par la supprimer. Et c'est ça, c'est le début de l'usurpation, Rousseau. Et ça, c'est une question réelle. Mais ça ne suffit pas pour défendre la démocratie représentative, de dire qu'au fond, c'est une sorte de... Bon, ce que je suis en train de dire là, c'est que la démocratie représentative où nous vivons, c'est une sorte de pis-aller auquel il faut bien se résigner, parce qu'on ne peut pas être toujours actif. Parce qu'on ne peut pas être, nous, citoyens, on ne peut pas être toujours citoyens actifs. On peut pas, la cuisinière ne peut pas toujours diriger l'État. Il y a bien des moments où il faut qu'elle fasse la cuisine. Bon, pour le dire un peu trivialement, parce qu'il est un peu tard. C'est un peu insuffisant. Je pense que la démocratie représentative, elle a aussi une autre vertu. J'aurais terminé peut-être par là. Au fond, ce qui se passe dans la démocratie représentative, et ça, Rousseau ne l'avait pas vu, et tous les critiques de la démocratie représentative l'ont manqué, c'est qu'elle permet, je dirais, de sublimer les antagonismes. Là, je m'appuie sur des analyses de Chantal Mouffe que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, elle permet d'éviter la lutte à mort. Cette fameuse lutte à mort que j'évoquais aussi à partir de Hegel. Qu'est-ce qui se passe au fond dans la démocratie représentative? Ben, on vote pour des partis de droite, de gauche, démocrates ou républicains, conservateurs ou travaillistes. C'est plus à la mode, paraît-il. On est en même temps de droite et de gauche. On dépasse les clivages, voire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette droite et cette gauche, le parti du mouvement et le parti de l'ordre, quel que soit le nom qu'on leur donne, ils peuvent se confronter à travers le jeu démocratique sans se tuer. Ce n'est pas la guerre civile espagnole. Voilà. On n'est pas passé à la lutte à mort, c'est-à-dire au moment où on se tire dessus, on cherche à anéantir l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité, il y a une rivalité entre les partis qui ont des visions, qui ont théoriquement des visions opposées, mais cette opposition, cette rivalité, elle reste agonistique, comme dit Chantal Mouffe. Elle reste une sorte de mise en scène. On met en scène la guerre civile sans la jouer vraiment. Donc l'agonistique, la rivalité, elle ne passe pas à l'antagonisme. On pourrait dire encore, comme je disais tout à l'heure, la colère ne vire pas la haine. On peut être en colère contre le gouvernement, mais on ne cherche pas à déposer une bombe à l'Élysée. On espère voter pour un autre président qui fera mieux les choses. Et c'est comme ça que fonctionne la démocratie représentative. Donc par un côté, je ne dirais pas qu'elle affaiblit, par un côté, elle affaiblit les passions. Elle affaiblit la passion politique, elle rend les gens passifs, c'est vrai. Mais d'une autre façon, on peut dire aussi qu'elle sublime ce qu'il peut y avoir de violent, de haineux, de destructeur dans l'antagonisme politique. Elle transforme l'antagonisme, elle le met en scène. C'est toujours très étonnant de voir les soirées électorales, on vient d'en vivre une, il y a toujours un moment d'intensité, on fait le compte à rebours, plus que 10 secondes, 9, 8, 7, 6, on va enfin savoir, grande musique, puis ça y est, le camembert apparaît. Ah, les écolos, ils ont avancé, ah, les insoumis, ils ont reculé, ah, les républicains. Voilà, il y a une mise en scène, quelque chose de très théâtral, très spectaculaire, dans la mise en scène de l'élection et de ses résultats. Toujours imprévisible, toujours surprenant. Il n'y a pas une fois, les études de sondage ne se sont pas trompées. Mais voilà, à l'arrivée, les gens discutent sur le plateau, on s'invective, et finalement, tout le monde revient chez soi et on ne sait pas tirer dessus. Bon. C'est un peu triste, peut-être, cette vision-là de démocratie, mais c'est comme une manière que les hommes ont inventée pour éviter la guerre civile, pour éviter le polémos, l'antagonisme, la destruction, ce que les Grecs appelaient stasis, c'est-à-dire la guerre civile, si vous voulez. Bon. Alors, que faire pour éviter que la démocratie représentative n'épuise et n'usurpe les forces vives du peuple? Est-ce qu'on pourrait inventer, au fond, je termine par quelque chose de presque messianique, est-ce qu'on pourrait réussir à inventer un régime de type nouveau qui puisse articuler, conjoindre l'énergie de la démocratie sauvage, la démocratie directe, et la sublimation représentative, la manière qu'a la démocratie représentative de calmer le jeu, de mettre en scène le jeu politique sans que ça dégénère en antagonisme? Est-ce qu'on pourrait y arriver? Et comment? Ben, je dirais que le mouvement des Gilets jaunes, il pose la question. Il donne une réponse fausse. Ça, c'est mon second point de divergence, puisque les plus radicaux, ils sont pour une pure démocratie directe. Alors, je me souviens, là, cette assemblée de coordination des quartiers généraux du Grand Est. Il y avait un type qui était à côté de moi, bon, venant d'un petit bled aussi totalement perdu. D'un coup, il se lève, il prend la parole et il dit avec un fort accent alsacien, que je ne vais pas imiter parce que je ne saurais pas bien le faire. Il dit « Oui, ça suffit comme ça, le Parlement, le Sénat, on dissout tout ça, on abolit tout ça, on crée partout des assemblées populaires, on se coordonne, on s'unit, et puis tous ensemble, c'est nous qui dirigeons l'État. » Ah, c'est merde. Quelqu'un qui n'a pas lu Rousseau, qui n'a pas lu Proudhon, qui n'a pas lu Bakounine, qui n'a peut-être pas regardé Land and Freedom, qui ne connaît rien, toutes ces théories-là, qui, bon, ça vient. Donc il y a quelque chose comme une mémoire du peuple, une mémoire très mystérieuse qui passe par où, je ne sais pas. C'est très mystérieux pour moi. Mais ça revient, donc c'est une vraie demande, un vrai désir. Donc voilà, démocratie directe. Alors je pense que ça ne suffit pas. Il faudrait réussir à l'articuler au jeu électoral, au jeu de la représentation. Mais comment y arriver ? J'avoue que je ne sais pas et je n'ai pas de réponse à cette question. Bon, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup trop parlé. La parole est au peuple.